Décryptage, Marie Cazadebé.
Au lendemain de la présentation de la synthèse du grand débat national en France, Édouard Philippe, le Premier ministre, en présente les enjeux politiques devant l'Assemblée nationale ce mardi. Et il sera demain, mercredi, devant le Sénat, car la nouvelle étape pour le gouvernement, c'est de transformer la parole des Français en mesures concrètes. Et il est attendu au tournant. Ces deux derniers mois, 1,5 million de personnes ont participé à cet exercice inédit via la plateforme Internet. Des réunions d'initiatives locales ou des cahiers de doléances, qu'ont-ils exprimé? Cette parole est-elle représentative? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Olivier Roucan.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous au studio. Vous êtes politologue, auteur de En finir avec le président aux éditions François Bourin. Et nous sommes au téléphone avec Jean Viard, sociologue, directeur de recherche à Sciences Po et auteur de L'implosion démocratique aux éditions de l'Aube. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors je voudrais qu'on commence par la méthode. 1,5 million de Français, je le disais, ont participé d'une façon ou d'une autre à ce grand débat. Mais on en sait peu sur qui ils sont, leur âge, leur catégorie sociale. Alors des premières études tentent à montrer que les ruraux et les jeunes ont peu contribué. Et que lors des réunions publiques, les participants, le participant moyen était un homme de plus de 50 ans, en activité, propriétaire de son logement. Jean Viard, en tant que sociologue, quelle valeur donnez-vous aux informations qui ont été récoltées durant ces deux mois?
Si vous voulez, en gros, la démocratie participative, ça s'adresse aux gens qui sont à l'aise dans le débat public. Donc ça s'adresse à la population que vous venez de décrire. D'ailleurs, si on regarde les cahiers de doléances qui ont été remplis à la main dans les mairies, elles sont différentes. Ce sont des beaucoup plus proches des gilets jaunes, parce que souvent les gens, ils préparaient le texte à la maison, ils faisaient corriger par quelqu'un, puis ils allaient le recopier. Donc si vous voulez, c'était un effort considérable, mais pour des gens moins à l'aise dans le débat public. Et là, par exemple, le référendum d'initiative populaire est très très loin en tête, etc. C'est beaucoup plus gilets jaunes. C'est pour dire que la façon dont on organise le débat, en fait, sélectionne le public, et en sélectionnant le public, on sélectionne un peu la réponse. C'est un peu ça qui s'est passé.
Olivier Roucan, la plupart des contributions l'ont été sur la plateforme Internet, donc là, c'est une toute autre catégorie de Français que celle que vient de décrire Jean Viard. Alors, est-ce que cette matière est suffisamment représentative, selon vous, pour qu'on en tire des leçons politiques?
Je reprendrai ce que vient de dire Jean Viard. On sélectionne le public, d'abord par le média qu'on utilise. On a vu, par exemple, sur les contributions en ligne, qu'il y avait de nettes différences, si on prend l'Île-de-France, entre les Yvelines, les Hauts-de-Seine, où il y a eu beaucoup de contributeurs en ligne, le numérique, ils y sont habitués, beaucoup de CSP+, et par contre, dans d'autres portions de territoire, y compris francilien, on avait beaucoup moins de contributions en ligne, et un peu plus de participation sous la forme de cahiers de doléances. Donc, ça rejoint ce qui vient d'être dit. Ensuite, sur les contributions en ligne, le Monde, aujourd'hui, signe quelque chose. Il y a eu beaucoup de copier-coller, de doubles contributions, donc il va falloir faire le tri. On affiche 500 000 contributions, il y aurait moins de la moitié, en fait, qui seraient des contributions originales. Donc il va falloir prendre le temps de sélectionner tout ceci.
Ça va être difficile de mesurer qualitativement, en
c'est
fait,
ça,
ces
qualitativement,
informations.
Parce que vous avez des gens qui ont participé deux fois, d'autres qui recopiaient leur texte, d'autres qui répondaient aux quatre thèmes, alors que certains ne répondaient qu'à un seul thème et à uniquement quelques questions. Et on a aussi sélectionné, j'allais dire, les personnes en cadrant le débat comme cela a été fait, avec des questions fermées, quelques
orientées.
Questions ouvertes, orientées. Tout le monde n'est pas apte à se plonger dans les questions fiscales, c'était assez détaillé. Alors il y avait des notices explicatives, mais là alors on rejoint un deuxième biais, c'est le biais, le cadrage oriente le contenu de la contribution et donc façonne le débat, et c'est quand même un biais pour qui est soucieux de méthodologie en matière de recueil d'informations et de démocratie participative.
Un grand débat qui était présenté à l'origine comme une réponse au mouvement des Gilets jaunes, une façon de mieux les entendre et de répondre à leur colère, mais beaucoup ont décidé de boycotter, à l'image de ces deux manifestants rencontrés lors d'un rassemblement parisien.
Il est déjà cadré, le débat national, c'est eux qui vont décider à la fin, donc ça sert à rien, nous on veut le RIC total.
Le référendum d'initiative citoyenne, vous attendez d'autres choses?
Des augmentations de salaire, une augmentation du salaire minimum.
Alors je pense qu'ils vont organiser les choses à leur façon, comme d'habitude, dans un certain cadre. Donc un débat national, comme les institutions peuvent nous le proposer depuis des années, je pense qu'on n'y croit plus et qu'il faut juste qu'on arrête les conneries. Après, je demande qu'à me tromper, ce serait avec grand plaisir s'il se passait quelque chose pour de vrai à l'occasion de ce débat.
À l'origine, donc, un grand débat pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Jean Viard, est-ce que l'objectif est raté, selon vous?
Non, je dirais pas les choses comme ça, si vous voulez. On était face à une situation, j'allais dire quasi insurrectionnelle, dont on ne savait pas quoi faire début décembre, où il y avait effectivement des dizaines de milliers de manifestants qui, au fond, étaient... je parle pas forcément de ceux des ronds-points, mais ceux qui étaient montés à Paris, tout ça. Bon, on était une situation extrêmement difficile à contrôler. Et au fond, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a fait un contre-feu. On a fait un contre-feu en essayant d'avoir une émotion démocratique. Je dirais les choses comme ça. C'est-à-dire que on s'est dit on va faire un grand débat. Il y a plusieurs grands débats. Il y a celui qui a eu lieu où les gens étaient là. Il y a le fait qu'on en a tous parlé dans nos familles, parce que on a tous parlé du grand débat. Donc j'allais dire que le débat démocratique, il était aussi le dimanche à la table de famille. Et puis, je dirais, il y a les grands spectacles du président de la République dans des débats au fond. Je dirais, le président a fait une formation accélérée du territoire français. Donc il y a tout ça. Mais moi, j'ai tendance à dire c'est une émotion de contre-feu contre une autre émotion. C'est pas un sondage. Ça ne représente un sondage, puisque le nombre de gens qu'on donne, évidemment, ce n'est pas un sondage. En plus, il y a que des groupes sociaux certains. Après, il faut dire une chose. Les gilets jaunes, c'est qui? Les gilets jaunes, ce sont, pour schématiser, je dirais, des travailleurs plutôt indépendants, y compris qui peuvent être artisans, petits patrons, infirmières, qui peuvent avoir des métiers, qui peuvent être auto-entrepreneurs, souvent, chauffeurs, beaucoup de chauffeurs de camions, chauffeurs de bus. Et au fond, c'est des gens qui sont souvent propriétaires dans le périurbain et qui, au fond, ont senti qu'on leur avait bloqué leur liberté. Vous savez, moi, je dis toujours, 60% des bébés naissent hors mariage, mais quand vous prenez votre bagnole, vous avez limité la vitesse, vous avez le prix de l'essence et tout ça. Et au fond, ce qu'ils demandent, ces gens, c'est la même liberté, j'allais dire, dans la vie publique que dans la couette, si on peut dire les choses comme ça. On est dans une société d'individus qui veulent être totalement autonomes. C'est pas du mouvement social au sens traditionnel, c'était pas syndicalisé, c'est pas non plus tout à fait le Sidunati, mais c'est des indépendants qui disent, écoutez, les normes, les règles, les taxes, il y en a ras-le-bol. Et un exemple, vous voyez la cabane de jardin de plus de 5 mètres carrés, taxée une fois à 584 €, ça leur est insupportable.
Alors Olivier Roucan, pour vous, est-ce que vraiment ça s'adressait justement à ce mouvement des gilets jaunes? Est-ce que ça a vraiment répondu à cet objectif-là? Jean Viard dit finalement que ça avait son intérêt. Mais ce qui est frappant, c'est quand même qu'on n'y retrouve pas les principales revendications des gilets jaunes, en tout cas celles qui ont fait le plus entendre parler d'elles. Je pense au RIC, justement, au rétablissement de l'impôt sur la fortune, les 80 km/h.
Non, c'était les deux ont une utilité, les deux expériences, pourrait-on dire, car à chaque fois, on est plutôt dans l'innovation, ont leur utilité démocratique, parce que cela a réveillé l'idée que les individus, mais même les groupes, se réapproprient quelque part le débat public, que ce soit sur les ronds-points, dans les réunions ou par Internet. Donc c'est un signe de vitalité participative. Mm-hmm. Cette participation, et il faudrait pas que ça devienne contradictoire, qui nous manque tant parfois lorsqu'il s'agit d'aller voter, je pense là aux élections européennes. Mm-hmm. Mais pour revenir à votre question, le débat national tel qu'il a été préparé, à l'évidence, n'était pas destiné de façon focalisée à répondre aux gilets jaunes et à même inclure ce public. D'ailleurs, on voit bien que la communication autour de débat national est problématique vis-à-vis des gilets jaunes. Le Premier ministre hier a présenté la synthèse même en indiquant que, en opposant les deux démarches. Mmh. Hein, donc il y a bien là la volonté de compléter justement dès le départ cette émergence de gilets jaunes et la parole qu'ils portaient. Donc les deux démarches ne sont pas comparables. Il ne faudrait pas trop les opposer et plutôt les rendre encore une fois quelque part complémentaires, puisqu'on voit que les publics ne sont pas forcément les mêmes. Les publics participatifs.
Un bon exercice de démocratie, comme vous dites, mais finalement, ce sont aussi les résultats de ces réunions, de cette plateforme, qui vont donner matière aux mesures sûrement annoncées, et très rapidement, le disait Emmanuel Macron. Donc les réponses répondront justement à ceux qui ont participé.
Je ne suis pas sûr.
Vous pensez que ça peut être plus large que finalement
ce qui ressort
de... Quand
j'entends hier le Premier ministre nous dire que ce qui retient, par exemple, de façon dominante, c'est que les citoyens veulent la diminution de l'impôt, de remarques. D'abord, le ras-le-bol fiscal, on en parlait déjà en 2012. Ensuite, quelle est la faisabilité d'une baisse brutale de la fiscalité? Troisième point, lorsqu'on regarde les contributions numériques, la baisse des impôts, ce n'est pas forcément ce qui ressort de façon dominante. Il y a une grande appétence de justice fiscale. Mmh. Et parfois, vous avez à peu près au même taux dans les contributions numérique, la volonté de davantage taxer les hauts revenus. Donc ça, c'est pas une baisse des impôts, vous voyez.
Et donc, une question de transparence, de savoir finalement ce qu'on fait aussi de notre impôt.
Oui, ce qu'on fait de notre impôt, et ça de toute façon, il n'y a pas de mystère, c'est la question après aussi de la redistribution et de la dépense. Et là aussi, il y a des conclusions qui sont tirées, semble-t-il, rapidement par une partie du pouvoir en place sur la redistribution, qui ne correspondent pas du tout aux attentes telles qu'elles ont été exprimées, ni par les Gilets jaunes, ni dans le cadre du débat public. Donc l'interprétation va être un problème politique majeur dans les semaines qui viennent, et elle est déjà.
C'est ce que vous entendez aussi, Jean Viard, une genre de sélection, finalement, des conclusions qui ressortent de ces contributions?
C'est-à-dire l'intervention qu'a fait hier le Premier ministre, c'était une sélection de la sélection, on va dire. Hein. Donc effectivement, et en plus dans la situation actuelle, chacun se rassure, au fond, en ayant les items qu'il a toujours eu dans la tête. Le Premier ministre qui vient du monde jupéiste, qui a toujours été pour la baisse des impôts, il entend surtout la baisse des impôts, etc. Chacun en est un peu là. Moi, je crois qu'il faut dire juste une chose, si vous voulez. C'est un moment démocratique extrêmement dangereux, où au fond, si vous voulez, partout autour de nous, il y a des prises de pouvoir par les nationalo-populistes. On peut prendre l'Italie, Trump, même le Brexit, la Catalogne. Et au fond, les Gilets jaunes, ça fait partie de tout ça. C'est, j'allais dire, d'ailleurs, l'élection d'Emmanuel Macron aussi. C'était quelque part une élection démocratico-populiste, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire une élection sans cadre, sans parti, dans une société d'individus déstructurés. Mais la déstructuration de la société, c'est un bonheur pour les individus. Il y a moins de normes, il y a moins de règles, mais c'est une angoisse collective gigantesque. Et au fond, si vous voulez, c'est ça qu'il faut dire. Ne regardons pas que la France. Il y a là une tentative politique, regardons ce qui va en sortir, mais effectivement le grand défaut, ça serait qu'au fond ceux qui nous gouvernent se retrouvent à la fin avec les idées qu'ils avaient au début. Ça serait l'échec absolu.
Parce que ce qu'on disait finalement juste avant l'antenne, Olivier Roucan, lorsqu'on regarde la synthèse de la synthèse, comme on dit, il en ressort. Donc les contributeurs, ça c'est en tout cas la lecture hier d'Edouard Philippe, veulent moins d'impôts, plus de services publics et une action plus forte du gouvernement pour le climat. Finalement, est-ce qu'on apprend quelque chose des attentes des Français?
Non, mais je pense pas que ce soit l'essentiel. Ce débat, il méritait d'exister, ne serait-ce que pour recréer du lien social, tout bêtement, et pour dépasser cette société des individus au sens d'une société des isolats, finalement. Donc ça se mérite. Un bon sondage bien fait renseigne autant sur les attentes, voire sur les pistes, que ce débat national.
Hein. Mais ça crée moins de liens.
Et en plus, il est davantage représentatif. Ouais. On n'apprend rien par rapport aux priorités des Français, et même de ce point de vue, on en sait moins, hein, puisque j'ai comparé une enquête sérieuse qui a été faite sur qu'attendez-vous des sorties du grand débat avec un échantillon représentatif, on n'est pas tout à fait sur le même équilibre que celui qui a été rendu hier. Hein. Donc, il y a bien cette question de la représentativité. Mais encore une fois, ce débat national, c'était une réponse quand même intéressante à la crise démocratique dont parlait Jean Viard, et peut-être pour sortir de ce débat clivé et qui enferme entre, comment les qualifier, libéraux et populistes.
On a créé du lien, en tout cas, au cours de ces réunions, 10 134 réunions, initiatives locales organisées à travers le pays ces deux derniers mois, comme à l'hôtel de ville de Saint-Sébastien-de-Morsan. C'est dans l'heure, on est là au nord-ouest de Paris. Et vous allez entendre d'abord un conseiller municipal, puis un habitant de la commune qui a participé à cette réunion.
Vous êtes de la fonction publique ?
Non,
mais n'hésitez pas à intervenir.
C'est un exercice un peu particulier, mais on se met en position d'écoute. L'idée, c'est quand même de rester, nous, dans une neutralité bienveillante. Et moi, je me suis surtout astreint à essayer de questionner, de reformuler, pour qu'on puisse remonter les choses les plus précises et les plus intéressantes possibles pour que le gouvernement puisse prendre les mesures qui s'imposent.
Donc, je pense qu'il serait quand même utile au réindex sur les pensions de retraite.
Et la suppression de la CSG ?
Moi, je dis même toutes les
dans votre
sens. Ça fait pas du bien, c'est énorme. C'est plus que du bien. Oui, bien sûr, c'est la première fois que le débat est ouvert comme ça. De toute façon, c'est après à nos élus de transmettre cela à l'étage du dessus.
Ça fait du bien, finalement, c'est ce que vous disiez, Olivier Roucan, et vous aussi, Jean Viard, hein, c'est l'exercice de recréer du lien, comme ça a pu être le cas aussi sur les ronds-points. Il est beaucoup question de services publics, et en gros, c'est moins d'impôts, mais plus de services publics. C'est là que parfois les revendications peuvent être contradictoires. Et finalement, les réponses sont déjà là aussi du côté des services publics. Édouard Philippe dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale, remettre plus de fonctionnaires au service des Français. Est-ce que là, on pouvait déjà s'attendre à ce genre de réponse ?
Oui, oui, mais c'est pour qui suit la réforme de l'État. Tout ceci est déjà plus ou moins a déjà parfois été mis en place de façon expérimentale déjà sous le précédent quinquennat. Hein. Quand on parle de services de proximité, d'accessibilité de services au public, vous avez des maisons de services qui ont été mises en place progressivement à partir de 2013. La loi NOTRe votée en 2015 a systématisé cette affaire avec aussi la notion de service itinérant qui était dans les attentes. Mais en fait, c'est déjà une réponse. Hein, donc l'idée de plus de proximité, de fonctionnaires plus proches, une reventilation des agences, c'est aussi quelque chose qui peut être envisagé. Bon, là c'est parfois un peu difficile parce qu'on se heurte à une organisation de la fonction publique qui est quand même assez rigide.
Alors l'autre grand thème, l'autre grand sujet de préoccupation, c'est le changement climatique. Plus de 60% des participants disent être touchés au quotidien par l'évolution du climat. Plus de 80% estime qu'à un niveau individuel, on peut contribuer à protéger l'environnement. Et pourtant, Jean Viard, les contributeurs ont largement exprimé, à 58%, le fait qu'ils n'étaient pas prêts à payer de nouveaux impôts ou une nouvelle taxe pour la transition écologique. Comment faut-il interpréter
Les gens en ont marre qu'on les prenne pour des enfants à qui on dit « si tu fais ça, t'as pas ton bon point ». Et donc, si vous voulez, la gestion, là, par l'État est devenue, vous voyez, la taxe pétrole, par exemple. La taxe qui a été le début de la crise. C'est dire aux gens, ah ben ça, il faut pas le faire, on paye plus cher. Là, tu vas trop vite, on te met un radar. Dire, on est des adultes, citoyens responsables. Donc, ce qu'on veut, c'est nous qu'on puisse agir. Si on vous dit, roulez plus en diesel, achetez-vous une voiture essence, on sait, on voit que le marché évolue très vite. Donc, les gens, ils en ont un peu marre qu'on les prenne pour des gosses, qu'on encadre. Ils ont envie qu'on leur donne des trucs où il y a des solutions. Les diesels, ça a été une solution. Le tri sélectif, par exemple, ça se développe à toute vitesse parce que tout le monde comprend ça. On a mis un peu de temps à comprendre comment ça marche. Donc, il faut donner aux gens des choses à faire et pas des choses à interdire. Et ça, si vous voulez, il y a une mentalité de l'État français, des services publics, qui produit de la norme toute la journée. Mmh. Et je crois que c'est ça dont les gens... Et vous savez, les gens, ils ont autant marre des normes que du problème fiscal. Vous voulez agrandir la fenêtre de vos toilettes, il faut aller demander une autorisation à la mairie. Et on est un pays de normes, où au fond, l'État est devenu un cadre. Et ce cadre, les gens ont l'impression que ça nuit à leur liberté. Or, on est dans une société d'immense liberté des individus, donc il y a un conflit fondamental.
Alors, pour terminer, Olivier Roucan, un mot quand même des sujets qui sont très peu apparus, même dans les contributions spontanées. On a très peu parlé d'immigration, par exemple, alors que le sujet a l'air de dominer le débat politique. Ça vous étonne ?
Bon, il y avait un effet de cadrage, hein. Ça n'était pas un thème retenu.
Non.
Et,
mais dans l'immigration,
dans
les contributions libres, finalement, ça a été assez peu...
C'est vrai, et y compris, paraît-il, pour ce qu'on sait pour l'instant, de ce qui remonte, y compris sur les sites et les plateformes Gilets jaunes. Donc non officiel de ce débat national. Donc il faudra s'interroger là-dessus. Pour ce qui concerne les contributions en ligne, on voit sur les cartes quand même que les zones de participation les plus faibles dans regard des contributions en ligne correspondent peu ou prou hein, à la carte des abstentionnistes ou du vote Rassemblement National les plus élevés. Hein, donc ça peut être un élément parmi d'autres, j'insiste bien, parmi d'autres de compréhension des choses. C'est surprenant et les Européennes vont permettre de voir si ce thème reste véritablement un enjeu fort.
Et en un mot, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un sujet sur lequel le gouvernement va avoir beaucoup de mal à répondre aux contributions des Français, du 1,5 million de Français ?
Ce qui est attendu, au-delà des réponses qui peuvent être nombreuses et complexes, c'est une parole forte, je pense, du celui qui a lancé cette affaire. Une parole forte, c'est-à-dire ce qu'il en retire et deux, trois points forts qu'il s'attachera à mettre en œuvre d'ici à la fin du quinquennat. Ça redonnera aussi un cap à son action.
On parlait d'Emmanuel Macron et il a promis que la réponse serait rapide. Merci beaucoup à vous, Olivier Roucan. Je rappelle le nom de votre ouvrage, En finir avec le président, justement, aux éditions François Bourin. Et Jean Viard, merci d'avoir été avec nous au téléphone, auteur de L'implosion démocratique, c'est aux éditions de l'Aube. Merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Krenik, Françoise Deligny, Simon Carteret et Claude Battista.